C-A-S-A-L. Casal.
Est-ce que c'est un rapport avec la casa musicale?
Je pense que ça s'écrit pas pareil. Comment ça s'écrit, Pablo Casal?
Bah, comme ça se prononce, C-A-S-A-L. A-S à la fin, du coup. Mais j'ai une question. Pourquoi, dans certains trucs, il y a écrit Po Casal et pas Pablo?
C'est P-O ou P-A-U?
P-A-U, du coup.
Du coup, est-ce que Po, ce serait pas en catalan? Ce serait le catalan de Pablo.
Pao Casal.
Je l'ai appris en école primaire, Casal, tout ça.
Est-ce que c'est pas un artiste?
Bah, il me semble que c'est un artiste, parce que chaque année, il y a les fêtes de Pablo Casal, et c'est un orchestre qui anime. Je crois que c'est ça, je suis pas sûre. Du coup, pour moi, c'est un artiste.
C'était peut-être un joueur d'orchestre?
Peut-être qu'il jouait du violon.
Alors, je sais plus comment ça s'appelle l'instrument, mais vous voyez une espèce de grand violon, ou violoncelle, voilà. Et il me semble qu'il jouait de ça, parce qu'on le voit souvent avec cet instrument, où il est assis sur sa chaise, et il y a un instrument entre ses jambes.
Elle a raison, sûrement.
Bah, s'il y a des fêtes en son nom, qu'est-ce qu'il a fait de si extraordinaire?
Quel est son parcours?
Est-ce que Pablo Casal, c'est que de la musique?
Est-ce que vous savez à quoi il ressemblait?
Je sais qu'il avait la calvitie. Et nous, on l'avait appris quand il était arrivé en France, parce qu'il n'est pas français de base. Et du coup, nous, on avait vu des photos de lui quand il n'était pas tout jeune, quoi.
S'il n'est pas français, il est quoi? Il est d'origine d'où?
Dans mes vagues souvenirs, il me semble qu'il était espagnol, mais c'était pendant la guerre et qu'il s'était réfugié en France. Et par contre, je ne me souviens plus comment il a atterri à Prades.
Laquelle de guerre?
Sûrement la guerre civile espagnole. Ça ramenait plein de réfugiés espagnols, du coup.
Est-ce que c'est avant ou après la Seconde Guerre mondiale?
Moi, j'aurais imaginé peut-être que c'était avant, puisque mes arrière-grands-parents, ils étaient tous les deux espagnols. Et ils sont venus en France à cause d'une guerre, je crois, du coup.
Je crois que tu as raison, parce que je me rappelle mes cours d'histoire qu'on avait fait sur Guernica, par exemple. Mais j'ai pas envie de me tromper encore une fois.
Sur les traces de Pao Casals.
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 À Prades. Nous sommes partis sur les traces de Pao Casals, sa vie, son époque, ce qu'il a représenté pour les gens de Prades et du monde entier.
Son art, sa musique, son engagement.
Chemin faisant, nous avons rencontré des personnalités
qui ont bien voulu partager avec nous leur connaissance de Pao Casals
ou nous raconter comment leur parcours peut résonner avec son engagement ou sa musique.
Nous commençons par Bénédicte Leuillet, qui nous reçoit à l'espace Casals, situé à la médiathèque de Prades.
Vous êtes bien équipés. Voilà. Les vrais pros. Donc là, on a le bureau et puis on va aller à l'espace Casals.
Bah déjà, bonjour.
Bonjour.
Moi, je m'appelle Amélia.
Bonjour, je m'appelle Ambre.
Alors bon, moi, je m'appelle Bénédicte Leuillet. Je suis donc employée au service patrimoine de la ville. À la fois, on s'occupe à la fois de l'espace Pablo Casal, qui est ici, au premier étage de la médiathèque. On gère aussi les archives autour de ce festival Casals, qui a eu lieu en juin 1950, dans l'église de Prades.
Est-ce que vous pourrez nous parler de cette salle et ce qu'elle représente pour Prades?
En fait, ce sont les Pradéens qui avaient d'abord créé un petit musée autour du passage de Casals et notamment du festival de Prades. Et donc beaucoup de gens régulièrement font des donations parce qu'ils ont des choses chez eux encore et donc ils font des donations à la ville de Prades pour que ce soit conservé et présenté au public. Comme on n'avait qu'un seul lieu, on a créé une espèce de petit coin du maître, on appelait ça le petit coin du maître, parce que n'ayant qu'une pièce, voilà, on a remis des objets de Pablo Casals, son secrétaire, son cartable, son piano, ses vestes. Ce sont toutes les photos au moment du festival, les décès. On a juste fait faire une petite silhouette pour mettre sa veste de concert. Vous avez ses parapluies parce qu'il disait « Ce que je crains le plus, c'est la dictature et le soleil. » Voilà.
Pourquoi la dictature ?
Quels sont les événements qui ont emmené Pau Casals à Prades ?
Bonjour.
Nous avons rencontré quelqu'un qui l'a connu, Ramon Gual.
Ah ben moi je m'appelle Ramon Gual. Moi je suis enseignant. Enfin, j'étais enseignant. J'ai commencé, j'étais instituteur. Regarde, moi je vous ai porté ce petit fascicule. Bon. Voilà Casals, à Prades. Alors, il y a ma famille, parce qu'on a été très amis. Il y a mon père, par exemple, sur la photo. Ça, c'est ma sœur, qui lui offre un bouquet le jour de son anniversaire. Oui. Donc, voilà Casals avec l'environnement de Jean de Prades.
Comment avez-vous connu Pau Casals ?
C'est d'abord lui qui m'a connu à moi, parce que moi, j'étais jeune. Moi, j'avais 5, 6 ans, 7 ans. Tu comprends ? Je ne savais pas qui c'était. Voilà. Par contre, il était ami de mes parents. Parce que eux, mes parents, et lui, et d'autres, eh bien, on était le fruit de l'exil.
Arrive la guerre civile espagnole. Ce qu'on appelle la retirade, c'est l'exil de tous les républicains qui sont arrivés par les montagnes en février 1939. Où là, c'était très difficile parce qu'ils ont dû franchir les montagnes avec la neige, il faut imaginer. Il y a eu plus de 550 000 personnes qui sont arrivées dans un département qui possédait que 200 000 habitants.
D'accord.
Donc ça a posé des problématiques qu'on connaît actuellement. Ce sont la problématique des migrants, hein, un petit peu, on y est confronté actuellement. Et donc, les gens ne savaient pas où les accueillir. Donc ils les ont parqués sur des plages. Ça s'appelle des camps de concentration. C'était à Argelès, Saint-Cyprien. Et après, il y a eu le camp de Rivesaltes qui se visite actuellement. Voilà. Là, vous pouvez aller visiter au camp de Rivesaltes. C'est très intéressant pour vous parce qu'il y a tous les témoignages des gens qui sont passés par ces camps.
Mes parents sont venus à Prades venant de Bourg-Madame. Et lui, il est venu à Prades après avoir passé la frontière au Pertus. Et puis il est venu parce qu'il avait des amis à Prades, qu'il connaissait. Il a d'abord été quelque temps à l'hôtel. Là, dans cet hôtel, il n'avait pas une chambre, il avait plusieurs chambres. Pourquoi ? Parce qu'il était le seul réfugié de Prades à avoir des sous. Parce que quand Casals est venu à Prades, il a plus de 60 ans, parce qu'il a fait une carrière prestigieuse. Donc, il est le seul à avoir de l'argent disponible sur place en France. Comme il est très connu, qu'il a beaucoup d'amis, etc., etc., il prend plusieurs chambres à l'hôtel et il accueille ses amis. Ils sont une dizaine. Une dizaine, entre guillemets, là aussi, de haut niveau du point de vue de la musique, du point de vue de son monde à lui. Alors, à ce moment-là, il voit le monde des réfugiés de Prades, qui, le monde des réfugiés de Prades, ne sont pas forcément des musiciens ou même des mélomanes, mais au contraire, ce sont des gens du monde agricole qui travaillent dans les fermes, mais qui sont d'une très grande importance. Parce que ce sont eux qui ont des poules, qui ont des œufs, ce sont eux qui ont des lapins, qui ont des pommes de terre. Il les aide parce qu'il leur paye, et eux l'aident à lui parce qu'ils le nourrissent. Vous comprenez ça ?
Par son silence, il a fait parler de son combat, de son engagement justement parce qu'à partir de 1945, vu que les puissances démocratiques ne faisaient rien, Casals ne veut pas aller jouer de concert en public. Et donc, quand arrive 1950, le bicentenaire de la mort de Bach, à ce moment-là, les musiciens du monde entier lui disent « Tu ne peux pas laisser passer cet événement sous silence, vu que tu adores ce musicien. » Et Casals refuse. Il dit « Non, je n'irai pas aux États-Unis. » Et tout d'un coup, le musicien en question lui dit « Qu'est-ce que tu dirais si nous venions, nous, à Prades ?» Et là, il dit « Ah, ça change tout. Ça va orienter les projecteurs vers mes idées, ce que je défends. » Et il a accepté.
Après cela, nous sommes revenus sur le sujet de la musique.
Il fallait qu'on en sache un peu plus sur l'instrument de prédilection de Pao Casals.
Il a appris la musique à l'âge de 4 ans. Et il jouait d'abord du violon, du piano, de la flûte. Et je voulais vous montrer la photo. C'est son premier violoncelle, donc avec une seule corde, dans une calebasse vide. Voyez. Alors, en fait... ça donnait, ils avaient fait un creux, ils avaient vidé, c'est comme la citrouille, hein, la calebasse, c'est long comme ça, c'est une courge, ils avaient vidé l'intérieur, ils avaient fait un trou et ils avaient mis une corde et ça a été son premier violoncelle. Et quand ils ont vu que Casals aimait ce son, ils ont acheté ensuite un violoncelle et il a donné son premier concert en public à l'âge de 14 ans.
La passion de Casals pour le violoncelle nous a amenés à faire la connaissance de Sophie Erdahl.
Et celle de l'instrument par la même occasion.
Bonjour.
Je m'appelle Chami.
Bah, moi, je m'appelle Moira.
Ah bah, moi, je m'appelle Sophie.
Ah,
oui. Et je suis luthière. Et c'est mon atelier ici, rue de la Révolution française à Perpignan. Alors, la lutherie, en général, c'est la fabrication de violon, alto, violoncelle au départ. De là, il y a aussi toute une gamme de choses qu'on fait à côté et notamment beaucoup de réparations, de restaurations, de montage, de remise en état de jeu. Mais il y a aussi de la vente d'instruments. On va chercher l'instrument qui convient à une personne qui cherche un instrument en particulier, un son, tout ça. Et il y a aussi les tout petits qui vont commencer, les enfants, donc on a des instruments de petite taille et nous on va les louer et on va accompagner les enfants dans leur apprentissage aussi.
Pouvez-vous nous parler, dire quelques fins sur le violoncelle en particulier ?
Alors, moi j'ai fabriqué un seul violoncelle. Et ben c'était la chose que l'instrument que j'ai préféré fabriquer.
Le violoncelle.
Le violoncelle. Et que dire sur violoncelle ? En soi, c'est fabriqué pareil, c'est juste plus grand. On a toujours une âme, un chevalet. Et après, il a donc 4 cordes. Et ça va être beaucoup plus grave que le violon. Donc ça va être accordé en quinte aussi. Mais ça va être accordé une quinte en dessous et une octave en dessous. Donc le violon, c'est mi, la, ré, sol. Mi étant la plus aiguë. Et là, sur le violoncelle, on va partir sur la, ré, sol, do. Et une octave en dessous. Et donc on a une chaleur du violoncelle, une rondeur, et quand on a un violoncelle qui joue une corde grave, on sent vraiment les vibrations, carrément, ça remplit la pièce, quoi. Ça fait vraiment effet, ça peut t'emporter un violoncelle, je trouve. Est-ce que tu sens que ça résonne, on ça sent la vibration qui...
Ouais, tu vois. C'est la première fois que je fais du violoncelle.
Nous sommes allés rencontrer deux violoncellistes d'aujourd'hui,
Marie Grolier,
puis Kasia Alemany.
Je m'appelle Marie Grolier.
D'accord.
Je suis musicienne.
D'accord.
Le premier groupe que j'ai intégré en arrivant dans la région, c'était en 2017, c'est le groupe Hublot. Et ensuite, le duo Trip for Léon. Je pense qu'on évolue beaucoup dans ce qu'on appelle assez largement les musiques actuelles. Après, moi, j'ai quand même été beaucoup influencée par tout ce qui est musique rock, alternative.
Électro, un peu
Électro, pas tellement. Plutôt rock et anglophone, beaucoup. En tout cas, j'ai baigné là-dedans. J'écoutais beaucoup de groupes de rock instrumental, post-rock canadien notamment, d'accord, qui intégraient des instruments à cordes frottées, dont violoncelle, violon, contrebasse, etc., en mêlant ça de manière amplifiée avec des pédales d'effet, etc. Et du coup, c'est vrai que j'étais là-dedans et j'ai voulu changer d'instrument. C'était soit la harpe, soit le violoncelle. Finalement, j'ai choisi le violoncelle. Après, je peux l'utiliser plus comme une contrebasse. D'accord. En plus, sur scène, souvent, je joue debout. Alors, les gens se posent la question, si c'est une contrebasse ou un violoncelle, qu'est-ce que c'est que cet instrument ?
Ah oui, d'accord.
Voilà, après on peut le faire grincer.
Est-ce que Pablo Casals vous a-t-il inspiré dans votre musique ou dans votre vie en général?
Non. en tout cas, je sais que c'est une figure majeure, ça c'est indéniable. Mais je veux pas dire que
Moi,
je suis arrivée au violoncelle par des groupes de rock.
Oui.
Voilà, j'ai eu ce parcours-là. Après, pour l'apprentissage, je suis quand même passée au conservatoire. Je pense que j'ai été plus inspirée par des violoncellistes comme Sol Gabetta, par exemple, qui d'ailleurs a joué, qui il me semble qu'elle est passée au festival l'an dernier. Mais voilà, ça c'est une violoncelliste, j'aime beaucoup ce qu'elle dégage et la manière dont elle joue.
Je peux essayer avec les effets ?
Oui. Ah oui. Écoutez-vous du Pablo Casals?
C'est lui qui a écrit le chant des oiseaux, c'est ça? Il l'a arrangé. Donc voilà, c'est peut-être ça le lien que j'ai avec Pablo Casals, parce que c'est un morceau que j'avais interprété notamment pour une personne.
D'accord.
Sa famille m'avait demandé de le... Voilà, je sais que cette personne-là aimait beaucoup ce chant. Et du coup, voilà, j'avais appris à le jouer au violon.
Vous avez interprété du Pablo Casals?
C'est ça.
Enchantée.
Voilà.
C'est là où je donne mes cours. Donc à 17h, il y a un élève qui vient. Donc on a une heure devant.
Pouvez-vous vous présenter?
Oui, je m'appelle Kasia, mais mon vrai nom c'est Katarzyna Ewald Alemanni. C'est un peu long parce que je suis polonaise de naissance. J'ai quitté la Pologne à l'âge de 20 ans pour étudier le violoncelle à Paris. J'ai joué dans des orchestres à Paris, notamment l'Orchestre des Chambres à Paris, ensuite l'Opéra de Paris. Donc voilà, mon métier c'est la musique. C'est la musique, mais plus spécifiquement le violoncelle. Et puis voici, maintenant je suis installée ici, professeure dans la classe de violoncelle.
Donc vous connaissez peut-être sans doute le morceau le plus connu au violoncelle qui est...
Avant de vous installer à Prades, est-ce que vous avez déjà entendu parler de Pablo Casals ?
Oulah, ben bien sûr que oui. Déjà en Pologne, Pablo Casals est connu internationalement. Et ma mère avait dans son bibliothèque le livre traduit en polonais de Pablo Casals avec ses interviews, avec ses conseils pour le violoncelle. C'est la première fois quand je suis arrivée ici. C'était très émouvant parce qu'elle m'a toujours parlé de lui. Que, oui, ce monsieur-là, c'était vraiment, pour le violoncelle, on peut dire le pionnier.
Est-ce que vous pouvez nous parler de ce lieu, l'école de musique ?
Alors, je le connais depuis un an et quelques mois, puisque ça fait que deuxième année que je suis là. Mais c'est sûr que le fait que ça soit à l'ancienne maison de Pablo Casals est particulièrement émouvant. Et que l'association de l'école de musique a pu récupérer ce lieu, c'est super. Et je pense qu'il est content là-haut, là où il est.
Est-ce que Pablo Casals était connu à Prades avant qu'il vienne s'installer ?
Et justement, non. Casals est venu à Prades en 1939. Pendant 10 ans, Casals est un anonyme à Prades. Personne n'en a entendu parler. Mais quand en 1950, il crée le festival de musique, et qu'alors il vient le monde entier, il vient le président de la République française, il vient la reine de Belgique, il vient la reine d'Italie, il vient tout un tas de monde et les plus grands solistes du monde, les plus grands musiciens. Alors tout le monde est étonné, tout le monde est « mais comment ?» Et c'est à ce moment-là que les gens découvrent Casals.
Le festival créé par Pao Casals à Prades existe toujours.
Nous avons rencontré Sandra Mascré, l'administratrice du festival.
On va se mettre là. Je m'appelle Sandra Mascré. Je suis administratrice du festival Pablo Casals, qui est un festival de musique classique et de chambre qui se déroule depuis 72 ans à Prades, tous les étés. C'est Pablo Casals qui a créé le festival en 1950. La durée a varié. Au début, il n'y avait que 6 jours, par exemple, quand Pablo Casals l'a créé. Après, ça a augmenté. On est passé, il y a eu certaines années où c'était 18 jours, d'autres 15, et là, maintenant, c'est 12 jours.
Comment avez-vous découvert la musique classique et Pablo Casals ?
Tout simplement parce que je suis allée en concert. Voilà. Moi, je suis de Prades et je suis allée à un concert. Alors, c'est vrai que je crois que j'étais la seule de mon âge à aller au concert de festival Pablo Casals, quoi. En fait, j'ai une copine, ses parents étaient dans le festival, enfin, ils aidaient dans le bénévole. Et donc, je l'ai accompagnée et j'ai découvert ça. Et j'ai découvert l'abbaye Saint-Michel, j'ai découvert. C'est comme ça que j'ai découvert la musique classique. Alors, je ne suis pas du tout musicienne, j'y connaissais rien. Maintenant, j'y connais un peu plus, mais on va dire que je ne suis pas une pro de la musique classique non plus. Mais c'est comme ça, par les concerts. On aimerait que, justement, il y ait plus de gens qui, comme moi, à l'époque, ont connu le festival, sont allés en concert. Plus de gens qui commencent un petit peu à écouter la musique classique. Les gens, ils écoutent la musique classique dans tous les films qu'ils regardent, dans toutes les séries, en fait, ils s'en rendent pas compte. Et dès qu'on le dit, on va à un concert de musique classique, c'est oh là là, un concert de musique classique, ça va être nul, ennuyeux et tout ça, alors qu'ils en écoutent tous les jours en regardant un film, quoi. Donc il y a un peu ça qu'on aimerait un peu désacraliser un petit peu. Et cette année, on va faire un week-end de festival dans le festival où il y aura des animations et des concerts au Château Pams en plein air pendant 2 jours.
Pourquoi parler encore de Pao Casals aujourd'hui, 50 ans après sa mort ?
Même les plus grands ne sont pas connus de tout le monde. Et même les plus grands mériteraient d'être beaucoup plus connus que ceux qu'ils sont connus. Tu comprends ? Parce que tout le monde parle de Mozart. Et après, tu demandes combien de fois ils ont écouté quelque chose de Mozart. Et si tu leur demandes d'abrir le pourpoint de citer une œuvre de Mozart, ils se demandent de quoi tu leur parles. La génération de mes parents connaissait des musiciens en pagaille. Ma génération en connaît beaucoup moins. Et la génération de mes enfants en connaît encore moins de ces mêmes musiciens. Et c'est même la même chose pour les peintres, pour les artistes, quels qu'ils soient. C'est d'une génération à l'autre que tout est à refaire. Tout. À quelque niveau que ce soit. Tout est à refaire. Et ça ne dépend pas de nous, ça dépend de vous.
Mais ce qui m'intéresse beaucoup, moi, c'est son aspect humaniste. Parce que quand on me dit dans quelque temps on n'entendra plus parler de Pablo Casals, moi je ne suis pas d'accord avec ça, parce que justement son engagement humaniste, il est universel et intemporel.
Bien sûr.
Voilà. Donc c'est ce volet-là qu'il faut développer, parce que justement grâce à sa notoriété, il a fait valoir des idées.
Bien sûr.
Justement.
Il n'a pas utilisé la musique que pour faire de la musique.
Voilà, c'est ça.
Bien
c'est
sûr.
Ce qui est important.
Sur les traces de Pau Casals à Prades.
Un documentaire enregistré par Zia,
Audrey,
Alizé,
Ambre,
Sandra,
Amélia,
Chamil,
Moira,
Sherazade
et Jéricho,
avec l'aide d'Étienne Noiseau pour la réalisation. Sur les traces de Pau Casals à Prades est un projet de l'association Beau Bruit,
mené avec l'école de la deuxième chance portée par le CMEA
et réalisé avec le soutien de l'appel à projet C'est mon patrimoine.
Un grand merci à toutes les personnes que nous avons rencontrées.